Merci d'écouter Europe 1. Nous sommes le jeudi 7 février.
Merci. Oui.
Et il est 6h. Bienvenue. 5h, 7h, Mathieu Noël.
On en dit des bêtises. Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 7 février. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
4 personnes victimes de l'incendie meurtrier de la rue Erlanger à Paris n'ont toujours pas été identifiées. L'un des rescapés va porter plainte ce matin contre la voisine soupçonnée d'être à l'origine du drame. La tentaculaire affaire Benalla, hier la chef de sécurité de Matignon, a été entendue par la police à propos notamment des enregistrements publiés par Mediapart. Et puis le doute pour les Parisiens à 6 jours du déplacement à Manchester. Le PSG s'est qualifié dans la douleur en prolongation face à Villefranche 3-0 en 8e de finale de la Coupe de France.
Europe 1.
Nouvelle révélation sur la femme de 40 ans suspectée d'être à l'origine de l'incendie meurtrier du 16e arrondissement de Paris. Hier soir, le procureur de la République, Rémy Heitz, a précisé qu'elle avait été admise dans un établissement spécialisé à 13 reprises ces 10 dernières années. Le procureur qui est revenu sur le déroulé précis des faits la nuit du drame.
À 0h10, un habitant de l'immeuble, pompier de profession, contacte la police pour signaler un différend avec une voisine qui aurait jeté une bouteille en sa direction alors qu'il lui demandait de respecter le voisinage en faisant moins de bruit. Les fonctionnaires constatent la présence d'une femme tenant des propos confus ou décousus. Ils quittent les lieux à 00h30 après s'être assuré qu'elle était rentrée chez elle calmement. Le requérant, qui avait quitté l'immeuble pour éviter toute nouvelle difficulté, il revient pour regagner son appartement. Il croise alors dans le hall cette voisine qui lui dit « Regarde-moi droit dans les yeux, toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand tout va exploser. » Il remonte alors dans les étages et constate qu'il y a un important voile de fumée et une odeur qu'il qualifie de typique de celle d'un incendie.
Rémy Heitz avec Guillaume Biel. Le procureur a également fourni un dernier bilan. 10 morts, 96 blessés, dont 8 pompiers, un blessé toujours entre la vie et la mort. Et puis l'interminable attente pour les familles de 4 des victimes qui n'ont toujours pas été identifiées. Par ailleurs, je vous le disais en titre, l'un des rescapés de l'incendie va porter plainte ce matin contre sa voisine. Un corps a été repêché hier dans la carcasse de l'avion où avait pris place Emiliano Sala et son pilote. Le corps doit maintenant être identifié. Ce sera fait sur l'île de Portland. Les tentatives de récupération de l'épave ont malheureusement échoué en raison des mauvaises conditions météo.
L'affaire Benalla et le fameux enregistrement révélé il y a quelques jours par Mediapart. Et cette question, quel rôle a joué Matignon ?
La chef de sécurité de Matignon a été entendue par la police. Les enregistrements où l'on entendait Alexandre Benalla et Vincent Crase se parler auraient pu être réalisés à son domicile. Les précisions d'Alain Accot pour Europe 1.
L'audition de la commissaire qui dirige le groupe de sécurité du Premier ministre, le GSPM, cette audition n'a pas été menée par n'importe qui. Selon nos informations, ce sont les patrons de la brigade criminelle qui l'ont interrogé sur les enregistrements mis en ligne par Mediapart. Enregistrement clandestin d'une conversation embarrassante entre Alexandre Benalla et son ami Vincent Crase à une époque où ils avaient interdiction de se rencontrer. Selon certaines rumeurs relayées auprès de Matignon, cette conversation aurait pu être enregistrée au domicile de la chef du GSPM, enregistré par un service de renseignement. Mais après une rapide enquête interne, écartant cette hypothèse et dans un souci affiché de transparence, Matignon explique avoir transmis tous les éléments en sa possession au procureur de Paris. C'est lui qui a décidé d'ouvrir cette enquête et de la confier à la brigade criminelle. Devant ses collègues policiers, la chef du GSPM a formellement démenti être impliquée dans cette affaire. Elle reconnaît connaître M. Benalla et même l'avoir reçu à son domicile pour lui témoigner son soutien. Mais ce jour-là, Vincent Crase n'était pas là.
Alain Accot. Emmanuel Macron est en Saône-et-Loire aujourd'hui. Le président va notamment échanger avec un millier de jeunes à propos du grand débat. Hier, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont été reçus par le chef de l'État à l'Élysée. La patronne du Rassemblement National a conseillé de dissoudre l'Assemblée. Quant au leader de la France Insoumise, il affirme qu'Emmanuel Macron ne lui était pas apparu totalement déterminé à organiser un référendum.
Le rapport de la Cour des comptes préoccupant pour les petits services d'urgence hospitalière et il préconise en effet de les fermer la nuit.
Oui, des services qui seraient trop coûteux, peu fréquenté. À Feur, dans la Loire, le service d'urgence de nuit a été menacé de fermeture il y a 18 mois pour le docteur Nicolas Olivier. La Cour des comptes n'a malheureusement qu'une vision économique des problèmes.
On est sur deux planètes différentes. Eux, ils ont une vision purement économique. Ils n'ont pas du tout une vision de territoire, notamment dans le monde rural. On ne peut pas résumer tout cela que par de l'économie. Il faut une efficacité. Et l'efficacité de ces services, elle vient aussi par la proximité, par la rapidité d'exécution, justement, et de pouvoir amener les premiers premiers gestes nécessaires pour prendre en charge le patient. Il y a une moyenne à peu près de 4 personnes par nuit sur le site de Feur.
C'est pas beaucoup, 4 personnes par nuit.
Eh bien, détrompez-vous, parce qu'à l'heure actuelle, en pleine épidémie de grippe, vous avez 5 à 6 personnes qui dorment sur des brancards, plus les personnes qui arrivent en continu, en nuit profonde. Vous voyez, donc, par période d'épidémie, par période critique, ça devient vraiment asphyxié.
Nicolas Olivier au micro Europe 1 de Jean-Luc Boujon. Nouvelles frappes aériennes françaises au Tchad. Les avions de combat ont bombardé hier et avant-hier au nord-est du pays. Une vingtaine de véhicules transportant des rebelles tchadiens ont été détruits. Theresa May revient à Bruxelles. La première ministre britannique va tenter aujourd'hui d'obtenir un nouveau compromis concernant l'accord sur le Brexit.
Europe 1, il est 6h05.
Un triste chiffre ce matin, Céline. Seulement 28% des moyennes et grandes surfaces respectent la loi Garot.
Cette loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire qui oblige les magasins de 400 mètres carrés de signer une convention avec des associations caritatives pour redistribuer leurs invendus. Mais certains ont toutefois mis en place de plus en plus d'actions, comme dans ce Monoprix du 9e arrondissement de Paris où s'est rendu l'heure d'Autriche.
Chaque soir, avant la fermeture du magasin, les clients viennent chercher des paniers à prix cassé, 5 euros, remplis des invendus du jour, plats préparés, laitages, fruits et légumes. Ici, les salariés ont été coachés pour limiter le gaspillage, explique le manager Mohamed Touré.
On n'avait pas trop le coup de main, surtout nous on faisait beaucoup de gaspillage au niveau des fruits et légumes. Il suffisait juste qu'un produit soit un petit peu abîmé et ça portait directement à la poubelle. Par exemple une pomme, si vous avez juste un petit défaut, un petit trou, c'est encore utilisable. Au moins on sait qu'il va y avoir une seconde vie aux aliments.
Par ailleurs, l'entreprise Phoenix s'occupe aussi d'acheminer les invendus jusqu'aux associations. Mais ce n'est pas toujours facile pour les grandes surfaces de respecter la loi, explique le cofondateur de l'entreprise, Jean Moreau.
Soit le magasin ne trouve pas d'association partenaire, il n'y en a pas dans son rayon à 30 km. Par exemple, pour des magasins dans la ruralité, ça peut être une vraie contrainte. Après, c'est un métier où il y a beaucoup de rotation de personnel. Le chef de rayon, charcuterie, va changer, le nouveau n'est pas formé, il n'est pas dans la dynamique, donc tout repart à la poubelle.
Le problème, estime ce spécialiste, c'est que si l'on veut que tout le monde applique la loi, il n'y a pas aujourd'hui suffisamment d'associations pour venir chercher les invendus dans les grandes surfaces.
Un reportage signé Laure d'Autriche.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Et Céline, c'est peut-être dur, c'est peut-être soudain, votre cœur n'y survivra peut-être pas, mais rien n'est plus possible entre nous. J'ai décidé de renoncer à cette folie quand j'ai découvert justement qu'en plus de moi, et de votre mari bien sûr qu'on salue, il y avait dans votre cœur décidément bien vaste un troisième homme. Un reporter d'Europe 1 qui visiblement ne vous laisse pas indifférente.
Oui, pas mal hein, Pierre Herbulot.
Insatiable succès. Eh bien, je vous souhaite bien du bonheur avec votre bulot.
Europe 1. Il est 6h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique. Au moment où la Cour des comptes rend son rapport annuel, Fabrice Dalméda remonte le temps jusqu'à l'origine de cette vénérable institution sous l'Ancien Régime.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
Et c'est l'heure de faire un point sur le temps.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine.
Céline Dacosta, un temps pluvieux aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, avec un ciel couvert du sud-ouest au nord-est accompagné de faibles averses. Ciel mitigé pour le nord-ouest avec des éclaircies, des averses et du vent, hein, de bonnes rafales entre 60 et 80 km à l'heure. Et puis un ciel voilé toute la journée près de la Méditerranée. Ce ciel incertain, il va nous accompagner jusqu'à la fin de la semaine avec un temps humide au moins jusqu'à lundi sur la moitié nord. Le tout sous des températures qui seront encore très douces. On est encore 5 degrés au-dessus des normales de saison aujourd'hui.
Merci Céline et Varoc.
C'est la journée sans portable qui se poursuit. Est-ce que vous êtes accro? C'est la question qu'on vous pose depuis 5h ce matin. Pourquoi vous est-il si indispensable ce smartphone? Et bien sûr, Twitter avec l'hashtag Europe 1, vous êtes très nombreux à nous répondre comme Romuald, objet quasi indispensable pour le boulot, les loisirs, les infos, et c'est aussi une sécurité. Aucun intérêt à faire une journée sans portable, nous dit-il. Comme ça, c'est réglé. Sophie, en revanche, elle nous dit qu'elle n'est pas accro. Elle regarde son portable le matin, petit déjeunant, pour regarder les infos et la météo de la journée, et après il reste dans la poche de son manteau. Elle est bien raisonnable, Sophie. On a un peu du mal à faire ça. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva, merci à vous chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
L'homme qui se présente à nous maintenant est un compétiteur. Un journaliste sportif qui ne laisse rien au hasard. Chaque mot est pesé, il y a derrière chaque virgule des heures d'entraînement. Seulement voilà, même Roberto Baggio avait connement buté sur une motte de terre au moment de tirer le penalty en 94.
Je ne suis pas excessivement curieux de connaître la vie des lapins ou des antilopes, n'en ayant jamais rencontré dans mon enfance à Bordeaux. Il conclut.
Et il conclut, c'était. Voilà. Oui,
oui. Ça s'est fait.
Évidemment. Ça s'est fait. C'était gratuit, c'était pour vous.
Voici Jérôme Lacroix, l'occasion de vous racheter aux yeux de vos supporters, le journal des sports. À la une, une flopée de doutes.
Celle qui accompagne en ce moment les footballeurs du PSG. Oui, peu convaincant hier à Lyon, ils ont connu en 8e de finale de Coupe de France toutes les peines du monde pour se défaire des courageux joueurs de Villefranche-sur-Saône, 3e division. Alors score final 3-0, certes, mais les stars parisiennes ont été poussées à la prolongation. Pas rassurant alors que mardi prochain, c'est l'8e de finale aller de la Ligue des Champions en Angleterre face à Manchester United. Des difficultés dont les joueurs ont conscience. Écoutez successivement l'Allemand Draxler, le Camerounais Choupo-Moting et le Brésilien Marquinhos.
C'est pas top aujourd'hui, mais on a gagné à la fin et on est content.
Ce sont toujours des matchs compliqués parce que tout le monde attend qu'on gagne facilement, mais c'était pas le cas, c'est vrai.
Compliqué, mais l'important c'était vraiment la qualification. On voulait pas jouer cette prolongation, on voulait faire mieux les choses, mais voilà, c'est le contexte de match.
Et autre point d'inquiétude, le précieux italien Marco Verratti, absent hier soir, n'est semble-t-il pas remis de sa blessure à une cheville.
Les autres résultats d'hier soir, Jérôme, et bravo aux Bretons.
Oui, deux équipes d'Ille-et-Vilaine en quart de finale. Vitré, 4e division, désormais les plus petits engagés, victorieux hier 3-2 de Lyon-Duchère. Et puis les Rennais ont battu 2-1 les Lillois. En quart de finale, Vitré recevra Nantes, le PSG Dijon, Rennes, Orléans et Caen se déplacera à Guingamp ou à Lyon. Les deux équipes s'affrontent ce soir 21h dans le dernier 8 de finale.
Le coup de chapeau du jour, il est pour Papy Claret.
Oui, dont on vous parlait hier, le skieur français Johan Claret, 38 ans, affectueusement surnommé Papy par les autres bleus, devenu hier en Suède le plus vieux médaillé de l'histoire des mondiaux de ski alpin. L'argent, il finit deuxième du Super G.
Moi, dans ma tête, j'ai vraiment pas 38 ans, hein, je vous le dis. Hein, j'ai encore 25 ans, je suis encore tout frais. On me traite de Papy déjà tout le temps, donc ça change pas. Mais je m'y attendais pas, j'étais dans les outsiders. Je pense que j'étais médaillable, après, il fallait faire le bon ski le jour J, et je suis surtout content de ça, d'avoir réussi à faire mon meilleur ski sur un grand rendez-vous. J'ai pas fait ça de toute ma carrière, je suis souvent passé à travers. Mais bon, avec l'état d'esprit que j'ai depuis le début de saison, c'est sûr que ça pouvait le faire.
Johan Claret au micro européen de Romain Libardi. Aujourd'hui, pas d'épreuve, c'est repos. Du handball, retour de la Ligue des Champions, messieurs, avec Nantes PSG en phase de groupe, 20h45. Hier soir, on jouait en Coupe de France et qualification pour les quarts de finale d'Aix, Dunkerque, Saran et Montpellier. Victoire 30-23 à Istres.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Des parents de jeunes joueurs de rugby envisagent de créer une association pour la sécurité de leurs enfants. Information révélée par Le Monde. Le rugby marqué ces derniers mois par des décès dramatiques suite à de violentes actions en jeu. Ces parents inquiets doivent déposer dans les prochains jours les statuts de l'association avec un but, peser sur les instances françaises pour des décisions fortes sur la santé et la sécurité des joueurs.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et du sport, nous passons, comme c'est devenu la tradition dans cette émission, à l'histoire. Or, qui est le grand spécialiste de l'histoire sur cette station? Céline
Vandel.
Non, presque. La Grèce en plus, Fabrice Dalméda.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
La Cour des comptes a publié hier son rapport annuel dans lequel elle épingle les cas de mauvaise gestion de l'argent public. Fabrice, comment est née cette institution?
Mais c'est le roi Philippe Auguste qui a installé la première chambre des comptes sur l'île de la Cité au XIIe siècle. Puis d'autres ont été créés en province jusqu'à la Révolution. Et après 1789, les révolutionnaires se sont empressés de supprimer ces institutions liées au roi. Ils confisquèrent les biens des nobles émigrés et lancèrent une nouvelle monnaie papier, les assignats. Ce fut un échec. Bonaparte, qui était alors premier consul, voulait lui que la France ait une monnaie forte.
Alors d'accord pour la monnaie, mais pourquoi la Cour des comptes?
Pour plusieurs raisons. D'abord, il crée la Banque de France et il établit des emprunts auprès de grands négociants pour financer l'État. Mais malheureusement, cela finit par un crack parce que les négociants avaient menti sur leurs comptes. Donc, devant cet échec, l'empereur Napoléon a décidé d'instaurer un contrôle comptable des finances de l'État. C'est ainsi qu'en 1807, la Cour des comptes est née. Son rôle consistait à revoir les comptes des receveurs généraux ainsi que ceux des payeurs généraux. Cela devait limiter les fraudes. Mais la Cour ne devait pas juger le gouvernement.
Et depuis la Seconde Guerre mondiale, le rôle de la Cour des comptes a évolué.
Ben oui, d'abord, son rapport est devenu un succès médiatique. Tenez, c'est déjà vrai. En 1949, c'est un best-seller avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Ensuite, sous la Ve République et surtout depuis les années 90, la Cour accompagne sa critique des gabegies et dilapidations d'une défense de l'orthodoxie budgétaire ainsi que d'une critique de la dette publique. C'est devenu un credo. Ça finit par dessiner des choix plus idéologiques que techniques et en somme, la Cour a aujourd'hui un rôle bien plus politique qu'autrefois.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain peu avant 6h15.
Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. À 6h20, à l'occasion de l'ouverture du salon de l'entrepreneuriat, nous recevrons Jérôme Tartin, PDG d'une plateforme dédiée à l'accompagnement des entrepreneurs. Qui entreprend aujourd'hui en France? Quel est le taux de réussite de ceux qui se lancent? Quelles nouveautés ont été mises en place pour booster l'entrepreneuriat? Quels bâtons dans les roues subsistent encore? On lui posera la question, mais d'abord, un moment toujours technique pour moi. Le moment du lancement du disque où je dois prononcer sans me planter le nom du groupe. Moment qui hier m'avait été fatal, pourtant le groupe en question était un peu connu. You're the best thing about me.
You two.
Et bien, you two sur Europe 1. Voilà, ça va, hein? Bon, attention, alors je me lance. Oman, Jane sur Europe 1. C'est bien là?
C'est bien.
She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. For the first time in your life, you saw her, you could fly. For the first time in your life, you loved her, she loved you back.
Jane sur Europe 1 avec Oman, qui malgré la proximité avec le Yémen, reste un pays sûr.
Non,
c'est
non.
Cadeau, c'est cadeau, c'est pour vous.
Europe 1. Ouais.
Non, trois fois.
À chaque
fois, je le dis un peu différemment.
Mathieu Noël ?
Oui.
C'est vous ?
C'est moi. Debout les copains continue, 2 heures placées sous le signe de la bonne humeur, certes, mais également de la compétence journalistique la plus irréprochable, ouais, grâce oui. Notamment à Céline Dacosta et Varoc, dont la culture générale est une chance pour cette émission. D'autant qu'à l'instar de Catherine et Liliane, elles se complètent.
Mm-hmm. Les trucs, tu sais, pour les muscles, là.
Ah oui, oui, les électrodes.
Les électrodes, là.
Comment tu dis comment tu dis le département du...
Lot,
ouais.
Le Lot, oui, elle pensait que c'était un poisson. Mais debout les copains, c'est aussi heureusement des invités à 6h20. Comment entreprendre aujourd'hui en France? Quelle facilité, quelle difficulté? Faut-il tenter sa chance? Nous recevrons un entrepreneur qui aide les entrepreneurs. Avouez que pour parler du salon de l'entrepreneuriat, c'est habile.
Et il est 6h19. Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Les sauveteurs ont récupéré hier un corps dans l'épave de l'avion qui transportait le footballeur Emiliano Sala. Le corps va être autopsié et identifié sur l'île de Portland. Les tentatives de récupération de l'épave ont-elles échoué à cause des mauvaises conditions météo? Nouvelle étape dans le grand débat national pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rend en Saône-et-Loire au programme 2 rendez-vous à Autun puis à Étang-sur-Arroux. Le débat avec des jeunes du Morvan est prévu à partir de 15h. Enfin, Theresa May se rend aujourd'hui à Bruxelles pour tenter de renégocier l'accord de sortie de l'Union européenne pour le Royaume-Uni. La première ministre britannique va rencontrer Donald Tusk et Jean-Claude Juncker.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce jeudi 7 février. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi jusqu'à ce soir au Palais des Congrès à Paris, le Salon des Entrepreneurs. Bonjour Jérôme Tartin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG d'UpnBiz, un groupe dédié à l'accompagnement des entrepreneurs. Alors, les chiffres sont bons. Plus de 700 000 entreprises ont été créées l'année dernière en France. Sur ce nombre, plus d'un quart sont des micro-entreprises. Le nombre d'auto-entrepreneurs a bondi de 28% sur un an. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé en France en 2018 pour expliquer ce succès ?
Déjà, tout simplement le doublement du plafond du statut de micro-entrepreneur.
C'est-à-dire le doublement du plafond du chiffre d'affaires ?
Du chiffre d'affaires qui était limitatif, qui est passé de 35 à 70 et à 170 000 pour la partie négoce.
Ouais.
Donc ça ouvre des
opportunités. Ça explique beaucoup l'augmentation.
Voilà. Donc des opportunités à des gens qui étaient sous des structures peut-être un peu plus complexes, de revenir à quelque chose de très simple, qui est quand même le statut de micro-entrepreneur, qui, à défaut d'avoir une couverture sociale adéquate ou au même titre que le régime général, offre quand même une simplicité pour entreprendre imbattable en France et en Europe.
Il y a aussi peut-être une explication par défaut, c'est qu'aujourd'hui c'est plus difficile d'obtenir un CDI. Peut-être qu'on hésite moins à se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, à défaut de pouvoir obtenir un CDI en salarié.
Il y a ça, mais il y a aussi le souhait. On assiste quand même à un mouvement sociétal où à un moment donné, les Français ont décidé de se prendre en main. Soit en termes de revenus complémentaires, soit en tant que revenu principal. Et franchement, le doublement de ce plafond a permis à des gens de se prendre en main et de dire ça y est, je me lance, je suis indépendant, je suis freelance, le mot est dit, et je vais pouvoir abonder avec des clients, avec une relation client-fournisseur et plus un lien de subordination entre un dirigeant et son salarié.
Changement de mentalité aussi peut-être du coup à une époque, freelance, ça faisait peut-être
un peu peur
aux gens en France en tout cas, peut-être moins aux États-Unis, et aujourd'hui maintenant les Français se disent freelance c'est sexy quoi. Enfin,
Oui, surtout sur les jeunes générations qui arrivent, puisque si on essaye d'avoir un petit peu des statistiques, on trouve que le statut de micro-entrepreneur c'est plutôt quelqu'un de 36 ans, avec un revenu trimestriel de 4 000 euros, alors c'est complètement dilué dans la masse entre ceux qui font très peu de chiffre d'affaires et ceux au contraire qui en vivent, puisqu'on peut tout à fait vivre du statut de micro-entrepreneur. Donc c'est... D'ailleurs, si on regarde encore une fois les statistiques, je suis désolé, mais Lacoste a sorti un certain nombre de statistiques, c'est intéressant de s'appuyer
dessus. Tout à fait.
On s'aperçoit que, bien sûr, à Paris, on a un grand nombre de constitutions de micro-entrepreneurs sur ces derniers trimestres, mais aussi en Normandie et en région PACA. Pourquoi ?
Oui, pourquoi donc ?
Ah, parce que c'est pour les Uber, non, c'est ça, entre autres, les VTC ?
Alors certes, toutes les plateformes ont participé à l'avènement du statut de micro-entrepreneur, mais aussi pour ceux qui ont décidé de se prendre en main, c'est un choix de vie. Et à un moment donné, sortir de Paris, c'est aussi un choix de vie. Aujourd'hui, avec les moyens de transport qu'on a, le télétravail, le travail à distance et ainsi de suite, on a tout à fait la capacité de travailler en région.
Une question qu'on peut se poser avant de se lancer, les auto-entrepreneurs sont-ils suffisamment protégés sur le plan social ?
Non.
Et oui, non. Et non, c'est ça. Il faut le savoir quand même avant de...
Alors, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits sur 2019, notamment pour les femmes enceintes avec un accompagnement un petit peu plus prolongé. On essaye de chercher à offrir une assurance chômage pour ces entrepreneurs, mais qui a priori va être très complexe à mettre en place. Par contre, c'est un vrai tremplin, puisque si on regarde 2019 spécifiquement, il y a moi quelque chose qui m'a arrêté, c'est l'ACRE, qui n'est plus limité aux chômeurs, mais qui est offert à tout le monde, et qui permettra de démarrer sur les trois premières années avec une taxation très très faible, puisqu'on aura 75% d'abattement, puis 50%, puis 25%, donc on va commencer avec simplement 5% de taxes sur son activité. C'est un vrai tremplin, une vraie velléité de l'État, à un moment donné, d'offrir la chance à tous ces gens-là.
Est-ce que c'est la durée d'une vie d'une auto-entreprise aujourd'hui ?
Alors, il y en a qui, dans le temps, gardent leur statut de micro-entrepreneur. C'est un statut qui existe depuis une dizaine d'années. Il y en a qui l'ont créé et qui n'ont pas changé. Inversement, ça reste quand même un tremplin pour aller à autre chose. On le disait tout à l'heure, la précarité au niveau social, soit c'est un revenu complémentaire et on est déjà couvert au régime général à côté, on est toujours soumis à des aléas de vie qu'on est obligé à un moment donné d'assurer, et en France on a tout à fait capacité à le faire. Donc on sera amené dans le temps à changer, à se réorienter, et 3 ans, c'est effectivement un cycle de vie qu'on observe.
D'accord.
À partir de combien de temps on peut gagner sa vie en étant auto-entrepreneur ? Moi j'ai lu que la première année, il fallait pas rêver, que la première année on pouvait pas se verser un salaire. Alors c'est quand même un peu compliqué. Il y a des aides qui existent pour pouvoir compenser ça.
Non.
Il n'y a aucune aide qui existe pour pouvoir compenser ça.
Entrepreneur,
il faut se préparer avant, par exemple en faisant une rupture conventionnelle avec son ancienne entreprise, enfin pour essayer d'avoir quand même de quoi suivre, parce que pendant la première année, c'est quand même difficile pour la plupart des autres entrepreneurs.
Pour ceux qui ont décidé de se lancer avec leur propre projet et qui ne s'appuient pas effectivement sur une plateforme ou qui ne sortent pas d'un emploi ultra qualifié ou à un moment donné, ils ont déjà un portefeuille de clients déjà établi, effectivement, c'est le parcours du combattant pour l'entrepreneur dit classique, que ce soit micro-entreprise ou autre. Donc, il y a bien évidemment une réflexion en amont, mûrir son projet et essayer de trouver à un moment donné des astuces comme effectivement, enfin, ce n'est pas des astuces, mais sortir du salariat avec un accompagnement par le Pôle emploi qui nous permet de se lancer dans des conditions plus favorables.
Vous le conseilleriez, ce statut d'auto-entrepreneur ?
Alors,
Up'n'Biz,
c'est un groupe de sociétés qui accompagne les entrepreneurs à travers tous les statuts. Micro-entrepreneur, portage salarial ou structure juridique classique. On part du principe qu'il n'y a pas de meilleur statut, il n'y a que des choix de vie. Donc oui, le statut de micro-entreprise est un vrai statut pour aller tester quelque chose, pour démarrer, c'est facile d'accès, etc. Est-ce que c'est durable ? Vous aviez posé la question tout à l'heure. Donc en fonction de ces choix de vie, on sera amené à le proposer, peut-être en complément d'autres choses d'ailleurs. Donc oui, on a la chance en France d'avoir ce statut. Et en plus, en 2019, beaucoup de choses arrivent pour faciliter ça. Donc,
2019 sera une belle année pour l'entrepreneuriat. Merci Jérôme Tartin, spécialiste de l'accompagnement des entreprises. On rappelle que le Salon des entrepreneurs se tient jusqu'à ce soir au Palais des Congrès à Paris. Merci d'avoir été avec
Europe 1. Mais il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de François Geffrier. La météo revient et ma foi, il fait doux, même très doux.
Il est 6h29, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, on fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta, et un temps pluvieux aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, un ciel couvert du sud-ouest au nord-est avec de faibles averses, ciel mitigé pour le nord-ouest avec des éclaircies, des averses et du vent. Ciel voilé près de la Méditerranée, ce ciel incertain, on l'aura jusqu'à la fin de la semaine au moins, avec de la pluie sur la moitié nord et des températures qui vont rester très douces.
Merci Céline.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'informations rigoureuses, d'enquêtes méticuleuses, mais aussi 2 heures de rire. Un rire que nous voulons exigeant, raffiné et haut de gamme. Une consigne que, visiblement, Eva Rock n'a pas encore pleinement intégrée.
Et si vous voulez leur rendre visite, leur établissement se trouve au Ménil, dans le département du Nord. Il s'appelle le Ménil Montant. Blague. Vous avez entendu ? Ménil Montant. Bon, c'est pas grave. C'est un jeu de mots, le nom de leur établissement. Ménil Montant. D'accord. À plus tard.
À suivre, seront-ils aussi des opilants ? Non, mais plus performants, oui. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent pour clarifier votre vision de l'actu. Programme notamment le dernier rapport au vitriol de la Cour des comptes.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 ce matin avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour à tous.
À la une aujourd'hui François.
Un geôlier face à ses anciens otages, Medine et Mouche, en procès pour la tuerie du musée juif de Bruxelles, va revoir pour la première fois des journalistes français qu'il avait torturés en Syrie il y a 5 ans. Une majorité de plus en plus monolithique à l'Assemblée nationale, un très proche de Nicolas Hulot quitte La République en marche. Trop peu d'écologie, trop peu de social à son goût. Et puis des restaurants contrôlés une fois tous les 15 ans, on doit pouvoir mieux faire, selon la Cour des comptes.
Europe 1.
Il leur faisait vivre les pires sévices il y a 5 ans en Syrie. Aujourd'hui, Medine et Mouche se retrouvent face à ses ex-otages. L'homme est en procès à Bruxelles pour la tuerie du musée juif. 4 morts en mai 2014. Il est par ailleurs mis en examen en France pour avoir été le geôlier au nom du groupe État islamique de 4 Français. 2 d'entre eux, Nicolas Hénin et Didier François, vont témoigner aujourd'hui. C'est la première fois qu'ils le revoient depuis leur détention. Pour Europe 1, Salomé Legrand a eu accès aux déclarations qu'ils ont faites au service de renseignement français quand ils ont reconnu Medine et Mouche sur des images du musée juif.
Ils sont formels, ils reconnaissent sa voix et son visage. Les traits de celui qui se faisait appeler Abou Omar et qui a été leur geôlier durant 6 mois, de juillet à décembre 2013. Une brute incontrôlable qui ne citait jamais le Coran mais célébrait le 11 septembre comme un jour férié. D'après les 4 ex-otages, Medine et Mouche faisait partie d'un groupe de 5 djihadistes français particulièrement actifs dans la torture des prisonniers syriens qu'ils pratiquaient en pleine nuit dans une salle spéciale. Ils ont eux-mêmes essuyé des coups de sa part, des brimades, des intimidations, des simulacres de décapitation. Le djihadiste qui chantait des génériques de dessins animés faisait des quiz à ses otages sur la guerre en Yougoslavie. Fan de Faites entrer l'accusé, il vouait un culte à Mohamed Merah, son héros, répétant qu'un jour, il tuerait une petite juive à la Kalachnikov. Les journalistes sont persuadés que Nemouche, seul à apparaître à visage découvert, rêvait d'être reconnu et poursuivi suivi aux assises. D'ailleurs, il les narguait sans cesse en leur disant « Vous serez témoin à mon procès ».
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Après l'incendie dans la nuit de lundi à mardi à Paris, 6 des 10 personnes tuées ont été identifiées. La femme soupçonnée d'avoir mis le feu à l'immeuble est toujours à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Le procureur de la République de Paris a raconté l'altercation entre cette femme et un habitant vers minuit et demi quand il lui a demandé de faire moins de bruit. Dans l'épave de l'avion du footballeur Emiliano Sala, disparu dans la Manche il y a 10 jours, un corps a été repêché hier sans que l'on sache pour l'instant s'il s'agit du pilote ou du passager. L'appareil repose à 68 mètres de fond. Un robot télécommandé a également effectué de longues prises de vue qui seront essentielles pour comprendre les raisons de l'accident.
Europe 1, il est 6h33.
Vous ne connaissez peut-être pas son visage ni même son nom et pourtant Mathieu Orphelin qui quitte La République En Marche, c'est un fait politique. Une fissure de plus dans la majorité. Ce député du Maine-et-Loire, très proche de Nicolas Hulot, réclamait plus d'écologie et de social dans la politique d'Emmanuel Macron. Nouveau coup dur pour les troupes de marcheurs. 50 d'entre eux se sont abstenus il y a 2 jours sur le vote d'une loi anti-casseurs. Aurélie Herbemont.
Je pars après avoir fait tout mon possible pour que nous réussissions ensemble à porter haut l'écologie. Voilà ce qu'écrit Mathieu Orphelin au député marcheur. Pour son collègue Bruno Ketel, ce départ était presque prévisible.
Je pense que depuis le départ de Nicolas Hulot, il n'était pas bien. Pour lui, ça a été un moment difficile et qu'à partir de là, il a été en difficulté d'exercer son mandat comme il l'entendait.
L'écologiste François-Michel Lambert a lui aussi claqué la porte de La République En Marche il y a quelques mois. Alors forcément, il comprend Mathieu Orphelin.
L'écologie a depuis longtemps quitté La République En Marche. Ça devenait de plus en plus difficile de porter l'urgence écologique.
Mais l'écologie n'est pas la seule source de discorde entre Mathieu Orphelin et la majorité. Le député médiatique a souvent alerté sur le social ou ces derniers jours sur le respect des libertés fondamentales. Mardi, il s'est abstenu de voter la loi anti-casseurs comme 49 de ses collègues. Un élu pas mécontent de voir un des députés les plus contestataires quitter le navire lâche, ça fait le ménage.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
À suivre dans ce journal, la Cour des comptes ne va pas vous donner envie de réserver une table pour midi. Elle révèle que les restaurants ne sont contrôlés que tous les 15 ans par les services sanitaires. A tout de suite.
Europe 1, il est 6h. Il est 6h35, Mathieu Noël.
La suite du journal, François Geffrier. Et si la Cour des comptes nous déconseillait d'aller au resto ?
Oui, ça peut paraître étonnant pour cette très sérieuse institution habituée à éplucher des milliers de pages de chiffres. Mais justement, ces magistrats s'inquiètent du faible nombre de contrôles sanitaires dans la chaîne de notre alimentation, plus particulièrement donc pour les restaurants. Anne-Laure Jumet.
Un restaurant n'est contrôlé en moyenne que tous les 15 ans par les services en charge de la sécurité sanitaire des aliments. La faute à des effectifs trop peu nombreux, selon la Cour des comptes, qui propose de confier au secteur privé les contrôles de base. Mauvaise idée, selon Marie Pic, secrétaire nationale de la CFDT DGCCRF.
Ça aurait un coût qui, à mon avis, est vraiment démesuré par rapport à ce que coûte aujourd'hui un fonctionnaire. Comment serait supporté le coût d'un contrôle délégué à une entreprise ? Il serait supporté certainement par les professionnels du secteur, qui aujourd'hui ont un contrôle gratuit par l'État et qui demain auraient un contrôle qu'ils devraient payer. Je ne suis pas sûre qu'ils aient très envie de le faire.
Mais les problèmes ne concernent pas que les contrôles dans les restaurants. Dans les rayons de la grande distribution, on peut aussi améliorer la procédure de retrait-rappel. L'affaire Lactalis a révélé des failles. Il a fallu des jours pour enlever tous les lots incriminés des rayons. Or, un an après, des mesures manquent toujours à l'appel, selon la Cour des comptes. Un code-barre plus détaillé permettant de bloquer en caisse les produits concernés ou encore un site internet unique listant les produits faisant l'objet d'un rappel. Mais sur ce dernier point, Bercy l'assure, le travail est en cours.
Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Ce devait être un très beau mariage, mais vous le savez, les fiançailles entre Siemens et Alstom ont été rompues sur décision de la Commission européenne. Le PDG d'Alstom, fabricant notamment du TGV, a dénoncé sur Europe 1 un grand gâchis et une décision incompréhensible. Mais il assure que son entreprise va bien avec un carnet de commandes record et qu'elle est même en train d'embaucher. C'est un problème quasi insoluble de sécurité routière. Avec l'âge, nos réflexes diminuent et pourtant la voiture est bien souvent indispensable dans tous les territoires ruraux évidemment. Les chiffres dans le département du Bas-Rhin par exemple sont très éclairants. Un quart des personnes tuées sur les routes a plus de 65 ans et c'est en augmentation. Les autorités mettent en place des stages. Reportage de Charlotte Béchler.
À 83 ans, Jean-Marie conduit encore. Il a son permis depuis 1958. Il ne laisse toujours pas sa voiture au garage, mais il est conscient du danger.
Il y a des automatismes qui sont perdus. Je n'ai pas la même capacité de réaction maintenant que quand j'avais 30 ans. Je suis conscient que parfois j'ai été imprudent par méconnaissance. Un manque de réflexe, hein. Ça, c'est indubitable.
Les seniors encore sur les routes, c'est un sujet de discussion dans la famille d'Anne. Son père a 86 ans et il prend toujours le volant et ça l'angoisse quand elle monte à ses côtés.
Sa façon de voir et de regarder la route, je pense qu'il a moins de souplesse dans la nuque, donc préfère effectivement pas faire de longs trajets avec lui.
Anne compte bien inscrire son père aux sessions de sensibilisation proposées par le département. Des ateliers d'une demi-journée, explique Dominique Schuffenecker, directeur du cabinet du préfet.
Des épreuves pratiques de la révision du code de la route, sensibiliser les personnes seniors aussi à l'incompatibilité qu'il peut y avoir entre l'usage de certains médicaments et la conduite automobile.
Prochain atelier pour ces seniors volontaires, c'est le 7 mars. La difficulté maintenant, c'est de convaincre ceux qui estiment ne pas avoir besoin d'une remise à niveau. Strasbourg, Charlotte Béchler, Europe 1.
Le foot et les résultats de la Coupe de France. Hier soir, le PSG a battu Villefranche-Beaujolais 3-0. Il a fallu aller en prolongation. Vitré, à domicile, a gagné 3-2 face à Lyon-Duchère. Et Rennes, sur sa pelouse, a battu Lille 2-1 au programme des quarts de finale. Vitré face à Nantes. PSG-Dijon, Rennes-Orléans et puis Guingamp ou bien Lyon face à Caen. Ces matchs auront lieu les 26 et 27 février.
Merci, c'était le journal de François Geffrier. Et franchement, les filles, de vous à moi, vous connaissez quelqu'un qui allie avec autant de justesse, sympathie, décontraction et rigueur journalistique?
Thomas Soto.
Mais non, mais non. Oui, ok, mais j'ai pris aussi, il est pas mal. Bon, allez, on fait un point sur le temps.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine.
Céline Dacosta, encore des averses aujourd'hui.
Ah oui, on n'ira pas à la piscine aujourd'hui, non, non. On les retrouve ou alors la piscine couverte. Si
piscine
si.
Couverte, oui, bien souvent sûr. En hiver, on va souvent la piscine couverte. Il y a peu de piscines découvertes
comme vous.
En hiver.
C'est sûr. Ou chauffées. On les retrouve principalement, ces averses, du sud-ouest au nord-est, mais le ciel sera mitigé, encore pour le nord-est avec du vent.
On me signale que Rénoval, c'est des abris de piscine en plus. Oui, c'est logique que ça soit couvert. Sinon, c'est que c'est pour eux.
J'ai bien écouté le sponsor. De bonnes rafales de vent, entre 60 et 80 km à l'heure sur toute la moitié nord pour cet après-midi, puis un ciel qui va rester voilé toute la journée près de la Méditerranée. Les températures sont un petit peu fraîches par endroits ce matin, mais elles vont bien grimper cet après-midi. La moyenne sera de 9 à 16 degrés du nord au sud.
Merci Céline. Eva, on fait un point.
Oui, un dernier petit message des auditeurs,
voilà.
Puisque c'est la journée sans portable, est-ce que vous êtes accro à votre smartphone? Pourquoi vous est-il si indispensable? On finit avec Amor qui nous a envoyé sur Twitter avec l'hashtag Europe 1. J'étais tellement heureuse de cette journée sans portable, de cette journée sans portable que j'ai passé la mienne au téléphone pour avertir tous mes proches. Merci. Merci pour tous vos messages.
Merci à vous.
5h-7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui slalom gaiement entre les piquets de l'info et de l'humour, sans jamais nous départir de la rigueur qui en tant que journaliste doit être la nôtre. De ce point de vue, aucun souci à vous faire évidemment. Eva Rock, la rédactrice en chef de cette émission, a deux modèles dans le métier.
Oui, c'est Goldorak ouais. et Capitaine Flamme.
Non, Christine O'Krent et François Giroud, on avait dit. Bon, bref, à suivre des journalistes, des vrais. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent. Trois éditorialistes, trois visions de l'actu. À tout de suite.
Il est 6h41.
Europe 1.
Il est 6h42, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Nouvelle menace sur les petits services d'urgence. La Cour des comptes suggère de fermer la nuit ceux qui sont trop peu fréquentés. Une question d'équilibre financier, selon les magistrats. Une journée probablement éprouvante à Bruxelles au procès de Mehdi Nemmouche. Deux journalistes français qui ont été ses otages en Syrie il y a 5 ans vont lui faire face pour la première fois depuis leur détention. En fin du foot, le PSG a dû lutter hier soir pour se qualifier en Coupe de France. Victoire 3-0 après prolongation contre une équipe de nationale, Villefranche-sur-Saône. Les Parisiens seront face à Dijon en quart de finale dans un peu moins de 3 semaines.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous les attendez chaque matin avec impatience. Et chaque matin, vous vous posez la question, comment les trois fantastiques font-ils pour être si fantastiques? Effectivement, Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Eh bien, la réponse est simple, chers auditeurs. S'ils sont si bons, c'est qu'en amont de cette séquence, au lieu de cultiver leur génie chacun de leur côté, ils mettent en commun leur trouvaille. Ils se retrouvent dans un lieu et ils échangent.
Autour d'une pinte.
Non.
De panaché, bien sûr, sans alcool.
Et voilà, évidemment, sans alcool. Mickaël Darmon, comme de la bande, vous êtes celui qui tenait le mieux le panaché. On va commencer par vous et la politique. Le vote de la loi anti-casseurs a provoqué une division plus importante qu'elle ne veut bien le dire au sein de la majorité, selon vous, et le départ hier du député Mathieu Orphelin du groupe La République En Marche en est une preuve supplémentaire.
On a beaucoup parlé des 50 abstentions. Ce chiffre a déjà surpris le patron du député de La République En Marche, qui s'attendait à beaucoup moins, à lui tabler sur une vingtaine. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le jour du vote, il a manqué 16 députés de La République En Marche qui ne sont pas venus, ils n'ont pas participé au vote, et certains parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le texte. Donc en fait, ça fait beaucoup plus de 50. Ce qui est frappant, c'est que ces députés, en fait, ne sont pas des frondeurs. Il n'y a aucun rapport avec ces députés de gauche du dernier quinquennat qui étaient en rupture idéologique avec François Hollande et qui d'ailleurs ont largement contribué à le faire échouer. Ces députés ont voté contre ce texte. Et certes, ils cassent l'ambiance, mais ils le font au nom du projet macroniste auquel ils adhèrent tous les jours. Autre différence notable, ils ne sont pas coordonnés. Ils représentent des sensibilités souvent différentes, certains venant de la gauche, d'autres étant issus de la droite sociale, d'où l'importance du message sur le principe, selon l'avocat Jean-Pierre Mignard, opposé au texte, mais bientôt à la tête du comité d'éthique de La République En Marche. Il s'agit d'un vote marqueur pour le président Macron.
Cet épisode est en tout cas un bon indicateur concernant le niveau de démocratie interne qui existe au sein de ce groupe.
Oui, parce que c'est quand même l'enseignement principal qu'il faut souligner clairement, regarder quand même avec lucidité. Après le profond renouvellement de la parité au sein des députés marcheurs, on est quand même bien face à une nouvelle culture politique. Des études ont montré l'homogénéité sociale de ces députés. Mais dans ce groupe, il y a aussi des agriculteurs. Et figurez-vous, il y a une dizaine de députés qui sont des anciennes infirmières, qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui existe absolument dans le groupe. Depuis le début de la mandature, il avait été décidé que les sensibilités existeraient au sein d'un groupe aussi important. Mais là, cette fois, la crise, en fait, elle couve. Après le départ, on se souvient de Frédéric Dumas, qui a rejoint l'UDI. Aujourd'hui, c'est le départ de Mathieu Orphelin, lui proche de donc Nicolas Hulot, qui s'en va. C'est un nouvel avertissement pour le président Macron, parce que ceux qui partent disent « le macronisme, c'était bien, il n'y avait plus qu'à l'appliquer ».
Ah oui.
On sait pourquoi il s'en va d'ailleurs, Mathieu Orphelin.
Parce raisons, il a fait un long texte assez important pour des raisons donc de transition écologique et également justice sociale et fiscale. Notamment par rapport au dernier texte.
Mais le départ de Nicolas Hulot l'avait déjà un peu contrarié,
on va dire. Ce qui a été vraiment la goutte d'eau, c'est aussi le texte anti-casseur.
D'accord.
Axel de Tarlé, puisque vous avez pris la parole, je vous la laisse. La Cour des comptes dénonce les avantages sans équivalent dont profitent les salariés et anciens salariés d'EDF.
Voilà, je vais me faire des amis chez EDF.
Oui, j'espère qu'ils nous écoutent.
Vous savez qu'il y a un autre chapitre sur la Cour des comptes, mais j'ai décidé de ne pas en parler. C'est sur, je cite, le temps de travail particulièrement faible chez nos amis de Radio France. Mais je me suis dit,
c'est moche.
Vous avez été beau joueur sur ce coup-là. C'est peut-être pas nous de le faire.
Exactement.
Alors, parlons plutôt d'EDF. Chez EDF, ils se gavent.
Ils se gavent. Alors, donc, je vous fais la liste. C'est pas moi, c'est la Cour des comptes.
Qui
dénonce le coût, je cite, exorbitant des tarifs d'électricité avantageux dont profitent les salariés et anciens salariés d'EDF. Parce que vous savez que si vous travaillez chez EDF, il n'y a pas d'abonnement EDF, il n'y a pas d'abonnement électricité, il n'y a pas de taxes et vous avez l'électricité à un prix préférentiel et il n'y a aucun plafonnement, ce qui, précise la Cour des comptes, peut conduire à une consommation excessive d'électricité et n'incite pas à la modération.
Pardon.
Je cite toujours, donc il y a un coût pour l'entreprise exorbitant évalué par la Cour des comptes à 300 millions d'euros. Ça, c'est le petit 1. Deuxième critique, la politique salariale, avec des salaires qui ont augmenté de 10% depuis 2012 et qui approchent maintenant les 5000 euros bruts en moyenne chez EDF, alors que l'entreprise va mal, rajoute la Cour des comptes. Vous voyez comme je me protège à chaque fois.
Oui, vous protégez bien. Oui.
Elle dénonce également les primes familiales jugées trop favorables, puisque si vous vous mariez ou que vous vous paxez, EDF vous offre un mois de salaire. Pour le premier enfant, c'est un mois et demi. Ça serait bien qu'on ait ça à Europe 1, nous.
Et pour les enfants suivants. Vous pouvez lancer l'idée.
Et puis ensuite, il y a un mois de salaire pour chaque enfant. Voilà. Et puis enfin, je termine. Alors ça, c'est un grand classique. Le système de retraite avantageux chez EDF, qui est payé, précise la Cour des comptes, par l'ensemble des consommateurs, puisque sur votre facture d'électricité, vous est prélevé 2% pour financer le système de retraite d'EDF. Alors bon, toutes les entreprises ont leurs petits avantages en nature. On va dire que chez EDF, il y en a plus qu'ailleurs. Nous, qu'est-ce qu'on a à Europe 1? On a
le petit-déj.
Le petit-déj de Noël, voilà, avec le café tous les matins qui nous est offert.
Voilà.
Ah oui, bien sûr. Noël, super.
Tous les jours.
Et on peut écouter la radio gratuitement. Mais enfin, c'est le cas de tous les Français.
Ça, c'est vrai. Eva Rock,
quand on dit le café, le petit-déj de Noël, parce que Noël, c'est la personne qui nous prépare le petit-déj.
Effectivement.
C'est pas simplement le jour de Noël.
Oui.
Eva
tous les jours.
Oui, je pense que ça passionne nos auditeurs. Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Alors, ça, c'est une question que se posent nos auditeurs.
Figurez-vous que ce matin, j'avais prévu de vous faire rêver en vous conseillant le documentaire consacré à Jupiter, mystérieuse planète du système solaire, un film scientifique grand public à voir sur France 5 à 20h55.
Et
puis, en fait, il y a un reportage.
Moi, je veux voir Jupiter. Hein.
Bah, vous pouvez, mais sincèrement, il y a un reportage qui est venu bousculer mes choix télé. Envoyé spécial diffuse un sujet sur l'homophobie en banlieue. L'occasion de donner la parole à l'IS qui a choisi de ne plus se cacher. Son homosexualité, il la revendique dans son quartier de Gennevilliers, mais son quotidien, c'est ça.
Quand je passe ici, ben, c'est les injures, sale pédé, tapette, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu passes par la salope. Voilà. Voilà, je fais ça comme trajet pour rentrer chez moi et j'ai pas le droit. Je me fais agresser minimum 3-4 fois par semaine. Les injures homophobes, jet de bouteilles de bière, crachat sur la figure. Je suis constamment en mode vigilance.
Et pendant le tournage, l'IS doit de nouveau faire face à ses détracteurs et malgré les caméras, l'agression verbale devient physique, des coups qui conduisent le jeune homme à l'hôpital, il va porter plainte ensuite, mais il sait déjà qu'elle sera sans doute classée sans suite cette plainte, alors même que l'injure homophobe est un délit puni de 6 mois de prison et de 22 500 euros d'amende. Si l'IS il a décidé d'assumer au grand jour son homosexualité, eh bien la plupart des jeunes, filles comme garçons, préfèrent se cacher parce qu'ils savent que le danger est là. Kamel a pris rendez-vous par exemple avec un garçon rencontré sur un site, mais quand il s'est présenté au rendez-vous, il a compris qu'il était tombé dans un guet-apens.
Ils se sont mis autour de moi de manière très menaçante. Et puis bah après, ils m'ont tapé des coups de poing, ils m'ont traîné par terre, des coups de pied, avec des injures homophobes. Donc ça le gay, ça le pédé. Ils m'ont dit de ne pas les regarder parce que j'étais une honte. En fait, c'était tellement un moment horrible que j'ai envie de l'oublier, en fait, clairement.
Alors les scènes filmées à la fois par les journalistes d'Envoyé Spécial et puis celles postées alors sans aucun scrupule sur Internet par les agresseurs sont absolument effroyables. Des agressions gratuites pour casser l'autre, l'insulter, le frapper. Le seul point positif du reportage, notamment, il y en a deux en fait, il y a les initiatives qui naissent dans les écoles pour sensibiliser les collégiens à cette homophobie ordinaire et puis les associations qui aident justement ces jeunes hommes, notamment à trouver un logement pour quitter leur quartier parce que notamment comme l'IS qui depuis le tournage et l'agression dont il a été victime, il a quitté ce quartier pour aller vivre dans un tout petit studio parisien parce qu'il n'a que ça comme solution pour pouvoir vivre son homosexualité tranquillement. C'est dans Envoyé Spécial un des nombreux reportages et c'est assez effrayant.
Effrayant et édifiant. Merci beaucoup Eva Roch, merci Axel de Tarlet, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain, peu avant 7h moins le quart comme d'habitude. Céline, trois mots pour finir.
Bim bam boum.
Ça a le mérite de la concision. Prenez-en de la graine Darmon.
Il est 6h51, Mathieu Noël.
Debout les copains, se termine le moment souvent gratiné du passage d'antenne avec Nico Saliagas. Ce profil, Nico Saliagas, mon héros. Le héros de tous les humoristes, l'homme qui a osé dire à Philippe Croizon, le quadruple amputé devenu sportif de l'extrême.
Vous allez rencontrer Susanna, parce qu'en 2007, vous allez prendre, si je puis dire, votre destin en main.
Le débrief de la matinale de Nico Saliagas, à suivre.
Il est 6h51. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine, mais vous le savez, inutile de se lamenter car le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nico Saliagas, animateur, journaliste, mais également imitateur de talent.
Le professionnel. Salut, c'est Jean-Paul.
C'est fou, j'ai l'impression d'avoir Bébel face à moi. Sacré Nico Saliagas. Nico, ce matin, ce qui devait arriver un jour, arrive enfin ce matin. Oui, je n'ai rien à vous reprocher, copie parfaite. Comme l'écrivait jadis votre prof de mathématiques, Madame Tsitsipas, la grande-tante du tennisman Tsitsipas, élève appliqué, studieux, beau trimestre. Attention toutefois, Nikos, au syndrome du bon élève. Et oui, car le bon élève est souvent victime des blagues de la part de ses petits camarades. Dans ces cas-là, pour ne pas tomber dans le panneau, il faut faire preuve de jugeote. Et surtout, Nikos, ne pas se montrer trop naïf avec vos collègues Céline Dacosta et Audrey Crespo-Mara.
Moi, je sais, Nikos, elle était à l'anniversaire de Neymar hier.
C'est vrai?
Oui.
C'est vrai, vous étiez avec Neymar?
Non, je plaisante. Et c'est lui qui est en studio, Neymar.
Neymar ?
C'est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT qui sera en invité.
Alors Nikos, ne soyez pas crédule, je sais que vous avez l'habitude de taper le carton avec Maria Carré, mais la plupart des autres journalistes n'ont pas un accès aussi facile que vous aux stars, hein. Ils vous font marcher. Sinon, je le disais, copie parfaite, avec même quelques jolies incursions dans le registre de l'humour, soutenu par un public indéfectible, Céline Dacosta.
On va parler des revenants, puis je vous parlerai aussi du loup, et ça a un rapport.
Le loup ?
Le loup.
Le loup, le vrai loup ?
Le vrai loup.
Moi je connais le cante-loup.
Ah oui.
Merci.
Et oui, Nikos, enfin un humoriste qui ne tombera pas pour plagiat. Enfin.
Oh, c'est moche.
Enfin, c'est un moche. Mot pour saluer le Rimbaud du baromètre. Le Verlaine des températures sous abri. Car oui, Laurent Cabrol est un poète. Sa palette lexicale, autrement dit son habileté à utiliser des mots qui n'existent pas ou que dans sa tête, m'étonnera toujours.
Mais après, ben, dans les régions qui sont un peu plus au nord, nous avons là un temps un peu plus grisonnant, grisouillant, gris-gris.
Un temps grisonnant, grisouillant, voire carrément gris-gris. Dans le monde de Laurent Cabrol, tout est décidément possible. Il doit être infernal à jouer au Scrabble. Ah, Scrabble, j'ai grisouillonnant en 4F. Mais ça n'existe pas grisouillonnant, Lolo. Si. Bref, c'est certainement là ce qu'on appelle la liberté du poète, la licence poétique.
Les températures, ce matin, font le grand écart, car elles sont vraiment spectaculaires. C'est un écart à vous faire péter les couilles. Voilà.
Oui, bon, alors après, la licence poétique, c'est comme la licence 4. On la donne à n'importe qui.
Je l'attendais, la licence 4. Voilà. Dites-moi, Mathieu Noël, vous avez la glotte bien perchée pour quelqu'un qui se réveille à 2h du matin, voire 1h, qui ne dort pas,
en fait. Glotte bien perchée.
Oui, je ne sais pas.
Ça oui, vient... non, mais pourquoi pas. Oui, c'est vrai que j'ai la glotte bien perchée, c'est vrai. Et bien, je monte souvent dans les aigus, paraît-il.
Oui. Non, mais vous êtes très bon. Vous êtes très bon avec Eva Rock et avec Céline Dacosta.
Merci,
vous nous mettez en bouche.
De bonne humeur, vous voulez dire. La glotte, voilà.
De bonne humeur.
Je suis ravi de vous mettre en bouche.
Merci. Et mon cher Laurent Cabrol, vous avez... Vous avez le...
Ouais, j'ai pris fort encore une fois.
Mais... Ouais, j'ai pas eu le temps de dire ce que vous aviez, mais vous l'avez bien. Hein, ça,
c'est oh. Et le bip, c'était pas ce que vous croyez, chers amis.
Mais
je
oui, évidemment, c'est un mot
bon,
anodin.
Vous dites jamais de gros mots.
La pluie. Parlons de la pluie. Elle va nous quitter progressivement.
Oh non.
Et lentement, mais provisoirement aussi. Elle va quitter provisoirement la Picardie, l'Île-de-France, la vallée de la Loire, la Champagne-Ardenne, le Poitou-Charentes. Et elle progresse en ce moment vers la Lorraine, la Bourgogne, vers le Bordelais et le Limousin. Toutes ces régions seront concernées par un passage pluvieux. Et cet après-midi, cette même pluie, mais bien organisée, va concerner l'Alsace, la Franche-Comté, le Dijonais, la région lyonnaise, le Midi-Pyrénées et l'Auvergne. Après le passage de cette pluie, eh bien, nous allons avoir un régime de giboulée sur le nord, la Normandie, la Loire-Atlantique, la Bretagne, la région parisienne, qui aura du soleil aussi, mais quand même de temps en temps quelques bonnes averses.
Oui.
Le bassin méditerranéen, un ciel voilé. Quant aux températures, ce matin, pas d'inquiétude, hormis dans l'Est où il y a encore quelques gelées, mais partout ailleurs, c'est du 5 à 7, si je puis dire. Et dans l'après-midi, entre 8 à 13 degrés, ce sont les températures maximales.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure pour
prochain
un autre
point météo. Justement, juste avant le journal de 7h30, Nikos.